France Culture.
Bonjour.
France Culture.
Donc vous allez vous mettre à ce micro, Marie ici. Alors c'est très intime.
Le Book Club.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais non, avec plaisir.
Je suis trop content. D'autant qu'on ne vous reçoit jamais parce que vous êtes toujours attrapé par les matins, par les midis.
Dans la bibliothèque de Leïla Slimani.
On fait un petit test micro pour tout le monde du coup. Vous avez eu suffisamment de ma voix ou vous voulez un petit peu de la voix de Leïla Slimani?
J'aime bien lire en plus.
Ah, trop bien.
Marie-Riche.
Et on y va. Petit enfant, vous parlez la darija, langue vernaculaire marocaine, synthèse créolisée d'amazigh et d'arabe, avec une grand-mère alsacienne. Cette même langue, darija, dans laquelle vous berçez votre nounou, mais pas votre père qui, comme d'autres de sa génération, considérait le français comme voie de réussite pour sa fille, au Maroc et ailleurs. Que vous n'ayez pas pu répondre quelques années plus tard à son enterrement aux formules de condoléances que l'on vous adressait en arabe, à qui cela devrait-il faire honte? La question déroule immédiatement plusieurs décennies d'histoire, notamment coloniale. Dans votre dernier livre, vous tracez, Leïla Slimani, la géographie de vos langues parlées, de vos langues fantômes, jusqu'au portugais que vous tentez d'apprendre vaillamment depuis que vous êtes installée à Lisbonne. Ces langues, une question pour chacun des humains, qui touche le corps plus qu'on ne le croit, et qui se redouble quand on grandit entre plusieurs langues, et que redouble encore, à moins qu'elle ne la fonde, la vocation d'écrivain. Assaut contre la frontière, c'est le titre de ce dernier petit livre paru aux éditions Gallimard. Il est tissé de lecture jusqu'à la dernière phrase où on aperçoit le Sisyphe de Camus. On a eu envie de vous proposer de déballer votre bibliothèque pour le Book Club de France Culture. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous.
Bienvenue chez vous, chez nous, dans cette espèce de bibliothèque virtuelle. C'est un épisode qu'on fait en studio. Le dernier tome de votre trilogie, J'emporterai le feu, vient de paraître en poche. Vous y parlez beaucoup de lecture, de littérature. Les livres ont vraiment valeur de lien entre les humains qui se retrouvent, se déchirent entre la famille, notamment avec le personnage du père. Et puis il y a un prologue où on vous propose de lire Proust, et en tout cas on vous conseille de trouver ou de chercher la Madeleine. Quelle est la place, si vous deviez la définir, des livres et de la lecture dans ce roman, dans cette fiction ?
Une place ambiguë, une place assez complexe, c'est-à-dire que ce sont à la fois des tapis volants qui permettent à cet enfant, de cette jeune fille Mia, quand elle est enfant puis adolescente, de s'évader de sa vie quotidienne, de découvrir d'autres mondes, de découvrir un Paris où elle n'est encore jamais allée pour de vrai, de découvrir l'Amérique latine ou l'Amérique à travers les romans que lui donne son père. Mais c'est aussi un lieu dans lequel elle peut se sentir parfois aliénée, enfermée, parce que ses parents la font lire aussi pour qu'elle ne sorte pas, pour que, en pensant que finalement lire pour une jeune fille, c'est pas dangereux. C'est bien, ça lui permet de rester à la maison tout en se cultivant, en devenant, en accumulant les connaissances. Et elle a le sentiment que les livres sont aussi une manière de l'empêcher de vivre. Et qu'il y aurait une sorte de frontière entre la vraie vie et la vie des livres. Et elle souffre de ça. Et lorsqu'elle devient écrivaine, ça prend des proportions même démesurées, puisqu'elle se met par moments à haïr les livres. Et elle a le sentiment qu'ils lui ont volé une part de sa vie, de la vraie vie.
Ce qui fait penser à un titre de roman d'ailleurs qui lui est conseillé, La vie est ailleurs. Et du coup, c'est un peu bizarre. En effet, où est la vraie vie? Est-ce qu'elle est dans les livres qu'elle lit et qui sont aussi un des véhicules de la transmission entre elle et son père? Est-ce qu'elle est loin des livres? En effet, vous le dites, Leïla Slimani, c'est assez ambigu. Dans Assaut contre la frontière, on n'est plus dans la fiction. Et là, vous parlez pas tant de la lecture et de la littérature, des langues qui sont parlées, pas parlées, fantômes, en soi, des réminiscences. Bon, si on essaye de remonter justement au premier bain comme ça de mots, de langues et de littérature, vous diriez que ça commence par où, pour vous, le rapport à la lecture? C'est vraiment vous remonter le plus loin possible?
Je dirais qu'en fait, ça commence d'abord par un rapport au récit. Parce que je viens d'une famille où on parlait beaucoup, on racontait énormément d'histoires. Donc j'avais l'habitude d'être très attentive aux récits qu'on me racontait. Donc ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires qui pouvaient être des histoires lues dans des livres ou des histoires qu'elle inventait. Mais elle avait par exemple beaucoup de livres alsaciens très très étranges pour moi, le Struwwelpeter ou des choses comme ça, avec des enfants dessinés qui ne me ressemblaient pas du tout, dans des contextes auxquels je ne comprenais rien, mais que je trouvais très très amusant. Donc ça commence par l'image, quelques mots. Et puis ensuite, c'est elle aussi qui va me donner les premiers contes de Selma Lagerlöf, qui va me donner le voyage de Nils Holgersen. Les livres d'enfance, c'est vraiment ma grand-mère. Elle aimait beaucoup cette littérature-là. Mes parents avaient une vision un peu plus élitiste, peut-être un peu plus adulte de la littérature. Ils regardaient ça un petit peu de haut, la littérature jeunesse. Je pense qu'ils la comprenaient pas du tout. Et donc, ils m'ont donné assez rapidement, peut-être vers l'âge de 10, 11 ans, des romans dits sérieux, considérant qu'il faut les lire, sinon, voilà, on n'est pas...
C'est-à-dire, comme quoi, par exemple?
Bah, là, je vais commencer à lire un peu des classiques. Je vais lire Les Quatre Filles du Docteur March, par exemple, qui est à la limite. Et puis ensuite, on va arriver vers Balzac, les Contes de Maupassant, puis ensuite Flaubert, et puis
mais
vers...
Mais tout ça, prime adolescence.
Ah oui, très jeune. Hein. Très jeune. Et en fait, mes parents, ils n'avaient pas tort en ça, considérer qu'on n'était pas obligé de tout comprendre. Que la littérature, c'était d'abord s'acclimater, enfin s'habituer à une certaine manière d'utiliser les mots, et qu'on pouvait... Bah, ils m'ont fait lire beaucoup de poésie, par exemple, à laquelle je ne comprenais rien.
Et
je
que vous aimiez quand même.
Que j'aimais quand même. Et je le dis aujourd'hui à mon fils, je lui dis, c'est pas grave de pas comprendre. Là, il est en train de découvrir Duras, et il me dit, c'est difficile, je comprends pas tout. Je lui dis, mais ça, c'est pas grave de pas tout comprendre. Va jusqu'au bout, et laisse-toi envoûter. Et ça, je trouve que c'était plutôt un bon conseil de la part de mes parents.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je suis assez d'accord avec vous, notamment dans l'enfance et dans l'adolescence, il y a plein de choses qu'on lit, qu'on comprend pas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dépose? Parce que ce qui est très beau, je trouve, dans Assaut contre la frontière, c'est que vous dites à quel point la question de la langue, de la littérature, de l'écriture, c'est des choses qui ont à voir avec le corps.
Voilà, ben c'est exactement la réponse que j'allais vous faire. C'est-à-dire que je crois que moi, mon premier rapport avec la littérature, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, c'est d'abord un rapport physique. C'est quelque chose de l'ordre d'un frisson qui vous traverse. Par exemple, quand vous lisez pour la première fois, quand vous êtes très jeune, une phrase très très belle. Vraiment une phrase très belle, où d'un coup le langage est porté à son niveau de sophistication, de beauté le plus grand, ça vous provoque quelque chose de physique. Vous avez un peu chaud, vous avez une sorte de sensation de chaleur dans la poitrine. Peu importe que d'ailleurs que vous compreniez la métaphore, que vous soyez capable de l'analyser, ça n'a rien à voir avec ces compétences-là que vous pouvez exercer en cours de français dans un commentaire de texte. C'est juste d'un coup, oh, mais que c'est beau. Et c'est exactement pour moi la même sensation que d'écouter un air de musique ou de voir un tableau et de voir des couleurs absolument magnifiques. Il y a quelque chose de physique dans la littérature qui est lié, je pense d'abord, à cette espèce de solitude dans laquelle on est. Très belle solitude, cette bulle qu'on peut
vous
créer.
Vous aimez, vous en parlez d'ailleurs
j'adore,
en parlant
que j'adore.
De Lisbonne.
Mais ça aussi c'est physique.
Ouais, c'est ça.
Ça aussi c'est physique, c'est que d'un coup je suis moi avec moi. Et moi avec moi plus l'autre, c'est-à-dire l'autre du livre, l'écrivain, le personnage, cette langue qui est autre que la mienne, parce que sa langue intérieure n'est pas la même que la mienne, et en même temps je suis seule. Et il y a quelque chose de très érotique là-dedans, c'est-à-dire il me raconte une histoire, il me la susurre à l'oreille, ça me provoque des sensations que j'ai pas besoin de commenter, que je peux vivre à ma manière.
C'est nickel.
Voilà, je prends mon rythme. Il y a quelque chose d'un peu... Mais d'ailleurs c'est pour ça qu'on se méfiait toujours de la lecture pour les femmes, parce qu'il y avait un truc un peu masturbatoire, il y avait quelque chose de l'ordre d'une sensation sur laquelle on n'a pas de compte à rendre. Et je pense que c'est parce que c'est physique aussi qu'on se méfie beaucoup des femmes qui lisaient, parce que y a une notion de plaisir qui n'est pas un plaisir purement intellectuel, pas du tout.
Comment ça se poursuit pour vous, le rapport à la lecture? Alors après, donc ces premiers livres qu'on met dans vos mains, qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce que ça prend comme tournant votre vie de lectrice?
Ensuite, ma sœur, elle avait... Donc j'ai 6 ans de différence avec ma sœur, et ma sœur, elle
avait...
Vous
êtes en dessous, vous êtes au-dessus?
Je suis en dessous. Et donc elle avait dans sa classe ou dans sa génération un garçon qui était promis à faire normale supérieure, qui était vraiment très très brillant au lycée, tout le monde parlait de lui, et il lisait énormément de livres, et j'étais très très amoureuse de lui. J'avais 12-13 ans, j'étais tout à fait inintéressante pour un garçon comme ça, absolument invisible. Mais j'étais persuadée que s'il arrivait à la maison et que j'avais un livre, eh bien, il me parlerait du livre et quelque chose se passerait. Donc, comme il venait souvent chez nous, j'ai commencé à accumuler des bouquins. Et puis, il s'est passé ce moment où finalement, j'ai continué à lire. Et je ne me suis plus vraiment intéressée à lui. Mais voilà, j'étais plus intéressée par les livres que par le garçon, qui ne s'est pas du tout intéressé à moi par ailleurs.
Est-ce qu'il a fait normal sup, ce garçon?
Il a fait normal sup, oui, il était absolument brillant. C'est quelqu'un qui m'a par ailleurs beaucoup apporté, parce que il me donnait de très bons conseils de lecture. Et puis il faut aussi imaginer que à mon époque, au Maroc, dans les années 80, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait cette idée que lire, c'était vraiment pas quelque chose de cool. C'était pas tout quelque chose de... Au Maroc, ce qui est très très valorisé, ce sont les sciences, les mathématiques, la physique. En revanche, la littérature, surtout pour les garçons, c'est vraiment pas valorisé. Pour les filles, ça va encore, mais enfin, moi, j'avais pas grand monde avec qui partager cette passion. C'était vraiment une passion
donc
que je
lui,
pouvais...
c'était quand même un interlocuteur
voilà,
choisi.
C'était un interlocuteur, donc il pouvait me conseiller, et c'est lui qui m'a conseillé notamment des livres de Dostoïevski, et c'est comme ça qu'est arrivée la passion pour les Russes qui ne s'est jamais démentie.
Éteinte. Quand vous décidez que vous allez vous mettre à écrire et que quelque chose de son rapport, de ce rapport aux mots, à la littérature, va aussi trouver une métamorphose dans l'écriture, est-ce que ça bouge votre position de lectrice ?
Oui, un petit peu. Même si je pense qu'en fait je suis devenue écrivain parce que quand on lit de manière très très passionnée, je pense que ça provoque toujours une forme de pulsion d'écriture. C'est-à-dire qu'on a envie de faire partie de ce monde, on a envie de leur répondre, on a envie de savoir. Mais si moi, j'essayais, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Qu'est-ce que ce serait ma voix singulière ? Donc, oui, ça change en ça que j'ai quelques auteurs dont je sais qu'ils sont capables immédiatement de provoquer cette pulsion.
Encore aujourd'hui, de manière constante.
De manière constante. Et d'autres qui ne la provoque pas, et ça, c'est vrai que ça peut créer en moi une forme de déception ou une forme d'atonie. Je recherche un peu ça, c'est-à-dire quand je lis, je cherche quelque chose de l'ordre de, allez, donne-le-moi, j'ai besoin de lire quelque chose qui va provoquer en moi de la jalousie, de l'envie, de l'admiration, des sentiments aussi vraiment personnels d'écrivain, mais même la jalousie, c'est un sentiment positif pour moi.
Ça vous met en route, quoi.
Ça me met en route. Moi, mes copains, quand ils m'envoient des manuscrits, tout, ils me disent, qu'est-ce que t'en penses ? En général, si je leur dis que je suis jalouse, c'est un très bon signe. Ça veut dire, voilà, j'aurais tellement aimé l'avoir écrit parce que c'est génial et c'est brillant et je suis très contente pour eux. Mais moi, j'aime bien ce sentiment-là.
Et si on essaye de se dire que c'est même encore peut-être plus profond, non que la jalousie soit pas quelque chose de profond, mais et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme liaison souterraine entre lire un texte et la pulsion d'écrire, comme vous dites, Leïla Slimani. Parce que c'est pas que répondre...
Là, en fait, ça résout ce paradoxe de la solitude. C'est-à-dire qu'à la fois, on est très seul, on est conscient d'avoir une vie intérieure très complexe et que c'est difficile justement de faire assaut contre la frontière, c'est-à-dire de sortir de soi pour pouvoir dépasser l'indicible et mettre en mots ce qui est à l'intérieur de nous. Donc on a ce sentiment de très grande solitude, on a ce sentiment de confusion des sentiments, de difficulté d'expression des émotions, et d'un coup, on est face à un auteur qui... dans cette même situation de solitude, lui a réussi d'un coup à faire émerger quelque chose, à donner forme à des émotions, à des sentiments qui peuvent être les nôtres, qui peuvent ne pas être les nôtres, mais on les comprend. Et d'un coup, il vous ouvre un chemin, il vous dit que c'est possible, il trace une sorte de piste dans le désert, dont vous savez très bien qu'elle va s'effacer très vite, mais il faut que vous la suiviez. Et donc, c'est ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'émulation et de l'amour commun. C'est-à-dire, d'un coup, vous vous dites, ah, donc il y a quelqu'un d'autre qui, comme moi, est animé de ce désir, de cette passion, de cet amour pour les mots qui a envie de se battre avec. Ça donne du sens à quelque chose qui, parfois, quand on est en train d'écrire, on est pris par un sentiment d'absurde, d'absence de sens. Je le dis dans le livre, il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fais ? À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que ça prend une telle importance dans ma vie ? Alors qu'en plus, je vis dans un monde où j'ai l'impression que ça en a de moins en moins. Donc, je pense que les auteurs sont nos frères, sont nos amis, sont nos compagnons, et sont ceux qui sont là aussi pour nous rassurer, et il n'y aurait pas d'écrivain sans lecteur, et il n'y aurait pas de lecteur sans... Voilà, c'est un monde qui vit ensemble, on se nourrit les uns des autres.
Dans Assaut contre la frontière, vous commencez par évoquer un cauchemar que vous faites encore ? Très régulièrement.
Oui, que je fais très souvent. Oui, absolument.
Ce livre, on peut peut-être rappeler qu'il est le fruit d'une commande qui vous est passée pour France Culture à l'occasion de la mise en avant de la langue arabe par le Festival d'Avignon. Thiago Rodriguez avait décidé chaque année de mettre une langue en avant dans sa programmation. À l'été 2025, c'était donc la langue arabe. France Culture vous passe commande et vous réfléchissez à, en fait, moi, je la maîtrise pas, cette langue, et elle m'a pas été transmise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que le fait de ne pas la parler, de ne pas la maîtriser, ça vous a rendu aussi étrangère à la littérature arabe, y compris dans sa traduction vers le français, par exemple ?
Non, heureusement. Heureusement, je suis au contraire. C'est-à-dire que le fait de ne pas maîtriser la langue fait que j'ai pas, j'ai peur de perdre tout ce qui est la culture autour. Donc, au contraire, j'ai essayé de surinvestir ou d'investir beaucoup, voilà, la connaissance de la culture arabe par sa gastronomie, par sa littérature. Je m'intéresse à la peinture. J'ai beaucoup d'amis aussi venant du monde arabe, qui d'ailleurs sont parfois comme moi, des gens qui maîtrisent mal, qui maîtrisent mal la langue. Mais le fait de ne pas maîtriser la langue ne m'empêche pas de m'intéresser beaucoup aux écrivains arabes. J'aurais pas pu écrire la trilogie si j'étais pas une amoureuse de Naguib Mahfouz. Il y a beaucoup de thèmes, par exemple, des films de Youssef Chahine qui ont été très, très importants dans ma vie. J'écoute beaucoup de musique arabe sans comprendre forcément les paroles. Bon, bah, c'est comme ça. Mais je pense que le texte, je l'ai écrit aussi sous la forme un peu d'un coming out, c'est-à-dire une manière de dire, bon, en fait, j'en ai marre de devoir répondre à cette question, j'en ai marre de trouver aussi des méthodes de contournement pour ne pas avoir à y répondre, pour pas me trouver dans la situation gênante face à quelqu'un. Ah bon, mais t'es marocaine et tu parles pas l'arabe, mais je comprends pas. Et c'est tellement difficile de répondre à cette question dans une conversation du quotidien parce que il faut un peu de temps, il faut un peu de complexité, il faut un peu de nuance.
Tant que vous vous donnez là.
Voilà, et je pense que c'est peut-être la plus grande chance et la plus grande arme qu'a un écrivain, c'est que quand il n'arrive pas à répondre à une question et quand il se trouve face à la difficulté d'expliquer une situation complexe, eh bien il a cette arme merveilleuse que sont les livres. Et c'est en ça aussi que j'aime énormément la littérature, c'est que j'ai l'impression qu'elle est toujours un moyen de venger les gens et de rendre justice aux gens. C'est-à-dire que tout le monde est un cas particulier. Et la plupart des gens, on ne peut pas les mettre dans des cases et tout. Et donc, dans la vraie vie, on est obligé d'expliquer, de mettre dans des cases, de dire « je suis dans ce camp, je suis dans celui-là ». Mais c'est jamais vrai, c'est toujours insatisfaisant, c'est toujours un peu à côté. Et donc, ça m'a permis voilà, d'essayer d'expliquer de manière un petit peu plus compliquée la situation qui est la mienne. Donc, voilà, ça n'empêchera pas les gens de juger, mais moi, ma honte, ça me permettra de vivre mieux avec elle.
Voir, vous dites un peu plus compliqué ou profonde ou vaste, parce qu'en fait, on voit bien que cette question des langues qui se pose en fait à chacun des petits êtres qui débarquent sur cette terre, parce qu'on est tous, et vous le dites bien, en citant Barthes, on a tous quelque chose à faire avec sa langue maternelle ou ses langues maternelles pour celles et ceux qui ont la chance de devoir en discuter avec plusieurs, mais... Donc c'est très vaste comme conversation si on veut bien l'ouvrir de manière un peu apaisée et riche. Et c'est très complexe aussi parce que vous dites que ça a à voir avec le corps de votre père. Et peut-être faut être un peu plus précis justement, Leïla Slimani, c'est que quand je dis mais alors à qui ça doit poser problème ou à qui ça doit poser question le fait que vous ne puissiez pas répondre à l'enterrement à des formules de condoléances adressées en arabe, d'un seul coup la question elle se dépersonnalise aussi. On est obligé de la dézoomer. C'est pas que Leïla Slimani qui parle pas arabe en fait. C'est quand même tout un pan de notre histoire entre ces deux pays, tout un pan des territoires, des corps, des positions vis-à-vis de l'entreprise coloniale et impérialiste. Enfin, c'est quand même beaucoup de choses qui arrivent, quoi.
Mais évidemment, et ce qui me touche beaucoup avec ce livre, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de le publier, c'est parce que quand j'ai dit ce texte à Avignon, j'ai reçu des dizaines, des centaines de messages, mais de gens, de Vietnamiens, me racontant qu'ils ne parlaient plus le vietnamien parce que leurs parents le parlaient entre eux et qu'ensuite ils leur ont dit, bon, ça sert à rien. Même histoire de Libanais, de Tunisiens, de gens venant de plein d'endroits différents, de Sénégalais. Alors avec à chaque fois des histoires différentes, parce qu'il y a d'autres langues à côté qui sont plus ou moins fortes ou pas. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, bon, d'abord c'était beaucoup plus universel que je ne l'imaginais. Et puis surtout que cette honte, elle était partagée. Or je crois que dès qu'une honte, elle est partagée, elle est moins lourde à porter. Dès que d'autres gens peuvent dire, ben en fait moi aussi, je ressens la même chose. J'ai discuté avec Nabil Wakim, qui fait ce magnifique documentaire que je cite dans le livre. Et Nabil Wakim, il me disait, moi aussi, j'ai cherché plein de manières de pas dire que je parlais pas l'arabe. Et je me retrouvais dans des reportages dans le monde arabe avec des gens qui étaient persuadés que et en fait, j'y arrivais pas. Et puis, on a tous fait un peu maintenant la paix avec ça. On essaye de faire la paix avec ça. Et moi, ce que j'ai envie aussi de dire aux lecteurs de ce livre et aux gens de manière générale, c'est que, en fait, c'est pas perdu. C'est pas irréversible. Moi, mon fils, il apprend l'arabe aujourd'hui. Et il est très content de l'apprendre. Et il l'apprend dans un contexte complètement différent, sans vivre avec ce poids de mon histoire, de la transmission, de la colonisation. Il l'apprend parce que ça l'intéresse, qu'il a envie de parler cette langue, que pour lui, elle n'est pas connotée de telle ou telle manière. Donc finalement, voilà, on a des identités qui sont un peu boiteuses. Mon identité, elle est un peu infirme. Je ne la porte pas en bandoulière. Je ne suis pas la bonne marocaine voilà, qui va le prouver et le mériter toute la journée. Sans doute peut-être pas une bonne française non plus. Mais voilà, mon identité, elle est ce qu'elle est, pleine de fêlures, un peu tordues. Et je pense que plein de gens sont comme ça et que la manière dont on nous représente le rapport à l'identité aujourd'hui pour plein de gens. Il n'est pas du tout satisfaisant. Et donc voilà, ce
très
livre,
fatigant aussi.
Voilà, il est épuisant. Donc moi, ce livre, il est pour tous les gens épuisés, pour tous les déserteurs, pour tous les boiteux, pour tous les gens qui ont des membres fantômes, des membres amputés, de leur dire que c'est pas grave et qu'on chemine et que nos enfants, ils sont derrière nous. Nos enfants, ils ont plein de choses aussi à nous apporter et que c'est par eux aussi qu'on se répare. Que ce qui nous a pas été transmis, ça veut pas dire que nous, on n'arrivera pas à le transmettre. Donc il faut pas s'enfermer dans une sorte de victimisation, de passivité. Moi, je suis très bien avec cette histoire qui est faite d'accidents, mais c'est mon histoire. Et mes enfants, ils feront aussi une vie où ils parleront plein de langues et ils seront très à l'aise avec ça.
D'autant que les manières de simplifier ou de vouloir mettre dans des cases très précises, très faciles à formuler, vous en racontez quelques extraits. Les Slimani, dans des témoignages de lecteurs, de lectrices, des interviews avec des journalistes, des critiques en France ou à l'étranger. Et j'imagine que vous faites une sélection sympathique en plus.
Ouais, franchement, oui.
Et que ça brille de ridicule slash de violence slash de racisme, quand même, on peut le dire. Et que vous dites, mon identité, elle est bancale ou elle est fêlée, mais elle est en fait... Elle est quand même beaucoup plus vaste et beaucoup plus solide que tout ce qu'on vous propose, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui, c'est bizarre que vous le formuliez en disant, je suis du côté un peu du fêlé, genre un peu bancal, un peu faible. Mais ce qui est en face est tellement faible. Enfin, en tout cas, ce que vous rapportez est vraiment super faible.
Mais j'aurais pu en rajouter 10 pages, hein, parce que ben, je vous dis même pas, le journaliste d'un grand quotidien français qui me dit encore pas longtemps, mais en fait, mais d'où vous êtes française? Parce que vous dites que vous avez une grand-mère alsacienne, mais ça se voit pas du tout. Ou le journaliste qui, parlant de la trilogie de Jean Porterai le Feu, répète 40 fois, mais elle parle pas du roi, elle parle pas du roi, parce que évidemment les Marocains, leur seul sujet de conversation, c'est le roi. Donc je sais pas, on demande pas à un auteur britannique ou suédois de parler systématiquement du roi, mais moi j'ai envie de pouvoir parler des fleurs et de l'amitié et de sexe si j'ai envie. En fait, je parle de ce dont je veux. Non, je pense que le mot, c'est le mot d'épuisement que vous avez utilisé tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est épuisant, c'est l'absence de réciprocité. Je pense que pour beaucoup de gens venant du même monde que le mien, de pays du Sud, etc., on arrive dans un monde où nous, on connaît votre langue, on a lu vos livres, on maîtrise votre culture, on a regardé vos films, et on se retrouve tout le temps dans une absence de réciprocité, une absence de curiosité, et en même temps, une assez grande arrogance. C'est-à-dire que les gens ne sont pas du tout mal à l'aise d'être pris en défaut et de ne savoir absolument rien sur ce dont ils parlent, qui vous parlent du Maroc, parce qu'ils sont allés une fois dans un week-end à Marrakech. Alors, le nombre de gens qui disent « Ah, vous êtes marocaine ?» J'adore l'Algérie, mais bon, et ça c'est systématique. Et en fait, je pense que c'est très grave parce que sans réciprocité, en fait, on ne peut se réaliser que dans la réciprocité. Et sans réciprocité, on installe des relations qui sont toujours des relations d'allégeance, de soumission, où il y a toujours un parti qui est malheureux, et ça crée du ressentiment. Et je pense que vraiment, même à l'intérieur de la vie française, il faudrait installer un petit peu plus de réciprocité, un peu plus de curiosité, parce que c'est ça qui installe la dignité. Et c'est vrai dans tout, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations de travail. Quand il n'y a pas de réciprocité, on est malheureux. On entend tout le temps des phrases « intégrez-vous ». Moi, j'y sais bien, intégrez-vous, mais intégrez-nous. Aimez votre pays, ben, c'est très bien. Moi, je veux bien aimer mon pays, mais aimez-moi aussi. Vous voyez, je pense qu'il faut toujours essayer d'établir de la réciprocité dans les injonctions. Et en France, il y a un peu cette tendance à être toujours dans l'injonction vis-à-vis des uns et jamais à réfléchir aussi à la réciprocité dans l'autre sens.
De part et d'autre de la frontière contre laquelle vous
exactement
menez assaut.
Exactement.
Leïla Slimani. On va aller vers la deuxième partie de ce déballage de bibliothèque en vous écoutant à partir des 5 textes que vous avez choisis juste après ça.
Kissed him as ooh.
Club. Dans la bibliothèque de Leïla Slimani. Marie-Riche.
Deuxième temps de votre bibliothèque, Leïla Slimani. On vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de choisir 5 extraits. C'était facile, c'était immédiat, c'était sans négociation.
Non, mais je me suis demandé comment faire. Je me suis dit, est-ce que je choisis les livres que je préfère? Est-ce que je choisis des livres de l'actualité? Puis ensuite, je me suis dit que j'allais choisir des livres qui ont été des inspirations pour écrire Assaut contre la frontière. Et donc, voilà, des livres
Donc c'est,
voilà.
C'est comme ça qu'on les entend aujourd'hui.
Voilà, exactement. Okay.
Mais quand même, vu ce que j'ai vu défiler, c'est à la fois comme ça qu'on l'entend aujourd'hui, donc de manière un peu contextuelle pour Assaut contre la frontière, mais il y a quand même un petit fond de votre rapport à la lecture en général.
Ah bah bien sûr, voilà. Bien sûr, il y a mes grands amoureux
peu, voilà.
Et mes grands, bien sûr, il y a toutes mes pulsions, justement, tous ceux qui m'amènent les pulsions
qui
d'écriture,
ont le petit
ils sont
shoot
tous là.
De la pulsion d'écriture. Alors on va commencer avec votre premier choix, L'œil le plus bleu, c'est un roman de Toni Morrison qui paraît en 1970, on va l'entendre dans la traduction de Jean Guillouano, mais juste avant on écoute sa voix.
Guilt is really a substitute emotion.
La culpabilité, en vérité, c'est une émotion de substitution, une émotion qui est destinée à cacher les choses au même titre que le silence. Et la véritable émotion, c'est la honte. Et je crois que c'est l'incapacité d'en prendre conscience qui rend nécessaire ce refoulement.
Shame is knowledge.
Mais la honte, c'est un savoir, la honte, c'est une information. Et si on peut éprouver la honte, alors on peut travailler sur ce sentiment, on peut élaborer. Alors que si on ne la ressent jamais, si on ne la reconnaît jamais, alors on ne peut jamais s'en débarrasser. Et on ne peut jamais apprendre à partir de cette honte. Poser les questions, c'est précisément le rôle de l'écrivain. L'écrivain peut aussi, peut-être, suggérer certaines solutions d'un point de vue ou d'un autre, mais en tout cas pas comme dans une émission télévisée, un « tout est bien qui est fini bien », ça certainement pas.
Chaque soir, sans faute, elle priait pour avoir des yeux bleus. Elle avait prié avec ferveur pendant un an. Si elle était un peu découragée, elle gardait encore de l'espoir. Pour qu'une chose aussi merveilleuse se produise, cela prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Enfermée ainsi dans cette conviction étroite que seul un miracle pourrait soulager ses souffrances, elle ne connaîtrait jamais sa beauté. Elle ne pourrait voir que ce qu'il y avait à voir, les yeux des autres. Elle descend Garden Avenue et se dirige vers une petite épicerie qui vend des bonbons. Elle a 3 petites pièces dans sa chaussure. Elle glisse entre sa chaussette et la semelle. À chaque pas, elle sent la pression douloureuse des pièces contre son pied. Une irritation douce, supportable et même agréable, pleine de promesses et de délicate tranquillité. Elle a tout son temps pour réfléchir à ce qu'elle va acheter. Mais en ce moment, elle descend l'avenue, doucement bousculée par des images familières et par conséquent aimées. Les pissenlits au pied du poteau téléphonique. Pourquoi, se demande-t-elle, les gens disent-ils que c'est des mauvaises herbes ? Elle les trouvait jolies. Mais les adultes disent « Miss Dunion entretient très bien sa cour, pas un seul pissenlit. » Des femmes d'immigrés avec un fichu noir sur la tête vont en remplir des paniers dans les champs. Mais elles ne veulent pas les fleurs jaunes, seulement les feuilles dentelées. Elles font de la soupe de pissenlit, du vin de pissenlit. Personne n'aime les fleurs de pissenlit. Peut-être parce qu'on en trouve partout, qu'il y en a tant et qu'elles sont dures.
C'est un extrait de L'œil le plus bleu de Toni Morrison, votre premier choix, Leïla Slimani. Juste avant, on entendait Toni Morrison dans une archive de 2006, les entretiens qu'elle avait accordés à voix nue pour France Culture, où elle parlait de la honte comme d'un savoir. Trop belle formule. Meilleur savoir, plus précis que celui de la culpabilité. Pourquoi vous avez choisi ce texte ?
C'est un livre qui m'a vraiment sidérée au moment de sa lecture, qui m'a sidérée par la façon dont elle brosse le portrait de ce personnage, cette petite fille qui s'appelle Pecola, qui rêve d'avoir les yeux bleus, qui vient d'un monde d'humiliation, d'un monde de honte et d'un monde de violence, vient d'un milieu familial marqué par la misère. Sa mère est une femme de ménage qui est maltraitée par les Blancs. Son père est un homme qui n'a connu pratiquement que l'humiliation tout au long de sa vie et qui reproduit ces mêmes mécanismes sur sa famille. Et en même temps, cette petite fille croit dans quelque chose de tout à fait irrationnel, bouleversant, qui est que si elle avait les yeux bleus, tout serait différent et qu'elle serait aimée et qu'elle serait d'un coup acceptée, qu'elle serait heureuse. Et ce rapport à l'altérité, ce moment où d'un coup, non seulement on regarde l'autre, mais on veut être l'autre, où l'autre devient une obsession.
Pour aller mieux.
Pour aller mieux, mais où l'autre, qui pourrait être aussi vu comme un ennemi, d'un coup, c'est pas seulement qu'on comprend qu'il est notre ennemi, c'est qu'en fait, on voudrait se substituer à lui. Enfin, quelque chose de l'ordre de la magie, une forme de substitution. Et cette jeune fille va finir folle, d'ailleurs, à cause de ça. Et d'un coup, même si, évidemment, l'histoire est beaucoup plus dure que tout ce que j'ai pu vivre, mais d'un coup, cette idée de regarder l'autre et de se dire, mais l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Et si j'avais ce qu'il a, bien ma vie serait plus facile et je serais plus heureuse. De comprendre qu'en fait, les rapports à l'altérité sont aussi faits de rapports de domination, d'envie, de ressentiment. Et la façon dont elle arrive à le raconter, ce que j'aime chez Toni Morrison, et elle le dit souvent, elle dit que elle a une écriture pornographique. Mais quand elle dit ça, c'est vrai que même dans des scènes qui ne sont pas du tout des scènes de sexe, le corps est tellement présent, sa façon de raconter le corps, ce corps aussi, pour les personnes qu'elle décrit qui sont dans une famille afro-américaine, ce corps noir qu'on traîne avec soi et qu'on a l'impression de porter comme un poids parce qu'il est regardé méchamment, parce qu'il est humilié, parce qu'il est battu, parce qu'à l'intérieur de la famille, il est violé. Je trouve que cette façon, à chaque fois, puis cette façon si touchante de s'arrêter sur des détails. Je veux dire, cette petite fille qui d'un coup regarde les pissenlits et qui se demande, parce que tout ça est absurde en même temps, pourquoi les blancs plutôt que les noirs? Pourquoi les yeux bleus plutôt que les yeux marrons? Pourquoi les roses plutôt que les pissenlits? Et d'un coup, de voir que ce vertige, cette chose si violente, si humiliante, elle ne repose sur rien, sur la différence entre les roses et les pissenlits. Et ça, c'est déchirant chez Toni Morrison.
Vous la lisez quand, L'œil le plus bleu?
Ah, je l'ai lu, je pense, adolescente. J'ai dû le lire vers 17-18 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Et après, j'ai découvert en plus la personne derrière. Et Toni Morrison, c'est une femme pour qui j'ai vraiment une immense admiration. C'est une sorte de maîtresse-femme. Non, j'aurais aimé la rencontrer. Mais j'ai jamais eu la chance de la rencontrer.
Mais en lisant sur elle, en l'écoutant.
Puisqu'il y a quand même de bonnes émissions, de bonnes émissions de télé. C'est possible d'écouter sa voix, de la regarder. Puis c'est une femme, moi, je trouve très, très belle. Enfin, qui a une présence physique aussi très, très impressionnante, qui se laisse jamais démonter, qui a une forme d'autorité. Et moi, j'aime beaucoup ça aussi. J'aimais bien l'idée qu'une femme noire, une femme racisée, puisse se retrouver sur un plateau ou sur une tribune et elle se laisse pas du tout faire. Elle répond, elle est jamais agressive. Mais alors, en revanche, elle a une autorité qui fait que celui en face, il n'a pas intérêt à raconter n'importe quoi.
Vous savez, vous dites que vous avez choisi des textes en écho avec Assaut contre la frontière. Il y a quand même dans Assaut contre la frontière ce moment où, en effet, vous ne vous démontez pas. Une lectrice, je pense, pensant faire alliance avec ce que vous avez écrit et avec ce qu'elle imagine que vous êtes dans son imaginaire, vous dit « ma petite bonne » et elle énonce derrière ça des propos racistes. Vous dites... La seule réponse que vous avez, un peu sidérée, vous dites « Mais combien mesurait-elle » Et comme s'il y avait quelque chose qui... La seule réponse possible, c'est le décalage par l'intelligence, le décalage par l'humour, le décalage par l'absurde.
Et revenir au langage aussi.
Ouais, revenir au langage.
Je pense que ce qui est important, c'est que les gens pensent qu'on peut parler impunément. Mais le langage, ça n'est jamais innocent, la manière dont on parle. Et quand on dit « ma petite bonne », on dit quelque chose de particulier. Et donc, d'un coup, en lui posant cette question « combien mesurait-elle », elle s'est retrouvée... elle savait pas du tout quoi me répondre, parce que en fait, elle avait même pas conscience qu'elle avait utilisé cette façon de parler. Donc peut-être qu'elle fera plus attention la prochaine fois, j'espère.
Deuxième choix, « Les raisins de la colère » de Steinbeck, si ça vous va, ça fait sens cet ordre-là. Ça me permet de vous demander, quand vous dites 17 ans, vous lisez Toni Morrison, ça veut dire que cette ouverture sur ce qu'on appelle la littérature mondiale, notamment, ou la littérature américaine, ou afro-américaine, dans le cas de Toni Morrison, vous l'avez immédiatement ?
Moi, j'étais absolument fascinée et très, très curieuse de toute l'histoire des Afro-Américains. Mm. Quand j'ai découvert l'esclavage, et c'est d'ailleurs la même chose avec le moment où j'ai découvert la Seconde Guerre mondiale, la solution finale, je n'arrivais pas à répondre à cette question. Comment on peut faire ça? Comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Et c'est une question à laquelle je n'arrive toujours pas à répondre. Et face à cette monstruosité, face à l'immensité de cette question, je suis allée chercher dans la littérature. Mmh. Et donc la littérature afro-américaine...
Plus que dans les livres d'histoire à proprement parler.
Oui. Oui, oui, parce que je voulais voir des corps, je voulais voir des personnages, des êtres singuliers. Je voulais aussi qu'on me donne des visions ambiguës. Je voulais pas simplement qu'on me donne des faits et puis un déroulé et un fil continu. Je voulais qu'on m'explique aussi pourquoi certains font, certains collaborent, pourquoi certains participent, pourquoi certains se rebellent et certains se rebellent pas. C'était ça que je voulais comprendre. Et puis le quotidien. Et donc, c'est là que je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à la littérature du sud des États-Unis. Moi, des gens comme William Styron, des gens comme James Baldwin, comme Toni Morrison, bien sûr, mais ensuite comme Flannery O'Connor, comme Faulkner, c'est-à-dire tout ce qu'il y a aussi autour, cette littérature du Sud, blanche aussi, qui raconte un envers du regard sur la personne noire, ça a été vraiment très important pour moi, et puis même c'est un style que je trouve magnifique, et qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, m'a aussi toujours beaucoup rappelé une littérature un peu du Sud, je dirais du Sud, même dans le sens, par exemple, africaine ou arabe, c'est-à-dire ce rapport au corps, ce rapport à la nature, par exemple dans les récits coloniaux, ce rapport justement au corps différent, au corps de l'indigène. Donc je suis allée beaucoup chercher là-dedans quand j'ai écrit par exemple sur la colonisation.
Deuxième choix, je le disais, Les raisins de la colère de John Steinbeck. On vous écoute dans la traduction française qui part en 1947.
Pendant ce temps, le garçon lui expliquait. Je savais pas, moi. Il disait qu'il venait de manger ou bien qu'il avait pas faim. Hier soir, je suis allée dehors, j'ai cassé une fenêtre et j'ai volé du pain. Je l'ai fait mâcher et avaler, mais il a tout vomi. Et après, il avait encore moins de force. Ce qu'il a besoin, c'est de la soupe ou du lait. Vous auriez pas un peu d'argent pour acheter du lait? La mère lui dit, chut, t'en fais pas, on va s'arranger. D'un coup, le garçon explosa. Mais je vous dis qu'il est en train de mourir, je vous dis qu'il est en train de mourir de faim. Chut, fit la mère. Elle regarda le père et l'oncle John, qui observaient l'homme malade sans pouvoir rien faire. Elle regarda Rose of Sharon, recroquevillée dans la courte pointe. Ses yeux croisèrent ceux de la jeune femme, s'en détachèrent et y revinrent. Et chacune des deux femmes regarda profond en l'autre. Rose of Sharon avait le souffle court, haché. Elle dit « Oui ». La mère sourit. « Je savais que tu voudrais bien. Je le savais. » Elle regarda ses mains serrées sur ses cuisses. Rose of Sharon murmura « Vous voulez bien sortir, tous ?» La pluie crépitait sur le toit, légère à présent. La mère se pencha et avec la paume repoussa les cheveux tombés en désordre sur le front de sa fille, puis elle lui déposa un baiser sur le front. Elle se releva vivement et cria « Allez les hommes, tous dans la remise à outils !» Roussy voulut dire quelque chose « Tais-toi, trancha la mère, tais-toi, oust !» Elle les poussa dehors, tira le garçon par la main et ferma derrière eux la porte grinçante. Rose of Sharon resta une minute sans bouger, dans les chuchotements de la grange. Puis elle releva avec effort son corps fatigué et s'emmitoufla dans la courte pointe. Elle alla lentement dans le coin de la grange, se campa devant l'homme au visage défait et planta ses yeux dans les siens, qui étaient écarquillés et terrifiés. Puis lentement, elle se coucha près de lui. Il fit lentement non de la tête. Rose of Sharon desserra un pan de la courte pointe et dénuda son sein. « Il faut, » dit-elle. Elle se colla contre l'homme et attira sa tête. « Là, » dit-elle, « voilà. » Sa main descendit sur la nuque de l'homme pour la soutenir. Avec l'autre main, elle lui caressa tendrement les cheveux. Elle leva les yeux et son regard se perdit dans la grange. Et elle joignit les lèvres en un sourire impénétrable.
C'est la traduction de Maurice Edgar Coindreau. On parlait de Faulkner tout à l'heure et de Marcel Duhamel. Les raisins de la colère, pourquoi ce choix, Leïla Slimani ?
Parce que je trouve que c'est un des livres les plus humains qui existent. Mmh. Voilà, moi, cette scène, je l'ai lu, je sais pas combien de fois, elle me fait encore pleurer. Et peut-être qu'elle me fait encore plus pleurer aujourd'hui, dans un monde où on a l'impression que ce genre de geste, c'est-à-dire l'humanité, le fait d'être ramené juste à son humanité, un
là.
Humain, voilà.
Là, dit-elle.
Voilà. Le mot lentement, qui est répété plusieurs fois. Les deux femmes qui se regardent, il n'y a pas de mots. On se regarde profond. Se regarder profond, ne pas avoir besoin de dire, de parlementer, d'argumenter. Quelque chose, de l'ordre d'une évidence, se fait, arrive comme ça. Sauver un être, et puis là encore le corps, le physique, quelqu'un qui a faim, et face à quelqu'un qui a faim, eh bien on sort son sein et on lui donne à boire, alors qu'elle-même, elle est épuisée. Et ce texte, il est traversé par ça. C'est un texte, je trouve, d'une modernité, d'une universalité incroyable. Quand
39,
on pense,
j'ai dit 47 pour la traduction française, mais c'est 39.
Quand on pense, voilà, à ce que vivent les immigrés qui sont sur les routes, quand on pense à ce que vivent les gens qui doivent quitter des lieux à cause de la perte de leur emploi, je pense à des films très récents américains sur des gens qui vivent, qui travaillent dans des grands hangars d'Amazon ou de choses comme ça et qui vivent dans leur voiture. Il raconte une histoire qui est une histoire qui est à l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce que le capitalisme peut faire de plus violent, de plus cruel, de plus déshumanisant. Et en même temps, il ne perd pas espoir, mais il nous appelle à une forme de vigilance. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens comme Rose of Sharon et comme sa mère qui sont capables de ces gestes-là, mais il y en a aussi qui mourront de faim, il y en a qui sont morts de faim et de fatigue sur le chemin de ce long voyage que fait la famille pendant les raisins de la colère. Donc pour moi, c'est un livre de vigilance, d'humanité, et dont je trouve en plus la construction littéraire prodigieuse.
C'est-à-dire ?
Moi, quand j'ai lu la première fois, je me souviens que j'ai rien compris. Et c'est pas du tout un livre que j'ai aimé la première fois. Donc, vous avez des chapitres qui sont des chapitres qui racontent l'histoire. Et puis, vous avez des chapitres qui sont des chapitres un peu plus métaphysiques, avec des descriptions beaucoup plus lentes. Notamment un chapitre qui est complètement fou, où il décrit une tortue. Et simplement, voilà, le voyage de cette tortue. Et bon, au départ, j'ai pas du tout compris. Et je l'ai relu beaucoup plus tard. Donc ça, c'est par exemple un livre que j'ai lu à l'école et c'est pas, la rencontre ne s'est pas faite. Et je l'ai relu il y a peut-être 10 ans. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible que j'ai vécu si longtemps sans lire ce livre? Et en même temps, c'est merveilleux. C'est pour ça que je dis aux gens, c'est bien, en fait, parfois, de ne pas avoir rencontré des classiques, parce que ça permet à 30 ans, entre 40 ans, d'un coup, de vivre des grands moments,
sûr,
voilà, d'amour pour un livre. Et ça a été le cas avec les raisins de la colère. Voilà. Donc, pour moi, c'est un livre qui est plein d'humanité et puis de délicatesse.
Et une voie pour aller vers votre troisième choix.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre Académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement.
1957, Albert Camus, qui dit « Je le désire aussi » avec beaucoup d'humilité. Il reçoit le prix Nobel de littérature. Vous avez choisi de lire la transcription de ce discours de Suède. Pourquoi, Leïla Slimani ?
Albert Camus m'accompagne depuis très longtemps. Je pense que j'ai lu L'étranger peut-être à 14, 15 ans, puis La chute, et puis ensuite voilà tous ces autres livres. Donc d'une part j'aimais beaucoup ces livres, et puis j'ai découvert l'homme derrière les livres, sa correspondance, ses carnets. Un homme plein de doutes, un homme plein de déchirures, un homme qui avait du mal à tout, du mal à être connu, du mal à être célèbre, du mal à être un résistant, du mal à être d'Algérie et de France. Un homme qui se retrouve en plus dans une époque où face à lui il y a des géants, des gens comme Sartre qui trouvent que Camus est trop dans la retenue. Et il me fait souvent penser à cette phrase qui me hante, qui est cette phrase de l'Apocalypse. Dieu vomit les tièdes, tu n'es ni glacial ni brûlant et je te vomirai par ma bouche. Et moi, je crois que je me suis toujours située dans cette tribu-là, la tribu des tièdes, des hésitants, des nuancés. Je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif.
Vous l'avez toujours vu comme ça ? Ouais. Vous avez cheminé pour ne plus le voir comme quelque chose de négatif ?
J'ai cheminé parce que pendant longtemps, je pensais qu'en fait, il fallait incarner une forme de radicalité ou qu'il fallait pas croire aux choses de manière. Et en même temps, je crois que quand même, venant du monde dans lequel je viens, ayant aussi été témoin du fanatisme, notamment religieux, je me suis toujours méfiée de ça. Et je me suis toujours dit,
les gens qui sont trop sûrs.
Ouais, les gens qui sont trop sûrs, moi, ça m'inquiète. Ça me fait très peur. Et je me suis aussi, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'en fait, ce qui nous lie le plus aux autres, ce qui fait qu'on a les relations les plus profondes avec les gens, ce sont nos doutes. Qu'en fait, quand on partage des certitudes, on n'a pas grand-chose à se dire. Parce qu'en fait, on a des certitudes, donc bon, la conversation, elle tourne un peu en rond. Mais quand on a des doutes, on peut parler toute la nuit. Parce qu'en fait, on ne sait pas, on se pose des questions, et qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Mais moi, je ne sais pas trop. Et ça peut être des doutes surtout sur le banal ou sur le métaphysique. Donc, voilà, pour moi, Camus, c'est quelqu'un qui m'accompagnera toute ma vie, parce que c'est un homme qui doute. Et c'est un homme qui ne sait pas. Et voilà, et qui est toujours dans cette... Et puis qui est déchiré aussi, un peu comme Tolstoï, dont on parlera tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est être un écrivain? Comment on fait pour être un écrivain et un homme bien? Est-ce que le succès, ça nous corrompt? Est-ce que les compliments, ça fait de nous quelqu'un de vaniteux?
Je l'ai d'ailleurs dit ça à tout le monde. Tout écrivain veut la reconnaissance. Je le désire
ben
aussi,
oui,
tirant voilà. Le les épaules.
Et en même temps, voilà, tout écrivain et tout artiste doit se méfier de la vanité, soit doit se méfier du regard des autres. Donc comment on vit dans cet équilibre? Comment on fait pour vouloir être reconnu et en même temps ne pas se vendre, ne pas devenir, ne pas se prostituer finalement par son art? Donc je trouve que c'est un homme infiniment touchant, sa manière de parler de sa mère, la façon dont il dit que sa mère le fait appartenir à la race des nobles, celle qui n'envie rien. Et je trouve que cette phrase est tellement belle, que la noblesse est de ne rien envier. Et je crois que c'était un homme comme ça, c'était un homme qui était noble pour moi, vraiment un noble, un aristocrate.
Je disais, on voit passer la silhouette de son Sisyphe à la toute fin d'Assaut contre la frontière, où vous dites qu'il faut imaginer Babel heureuse. Et c'est bien, ça nous donne du courage pour remonter une nouvelle fois la montagne et le Slimani.
Oui, absolument. Et puis, cette idée de l'absurde, parce qu'il y a une idée vertigineuse et au fond très noire, qui pourrait être désespérante, je trouve que c'est ça aussi qui est très beau et très humain chez lui, c'est ce mélange de désespoir, de lucidité absolue et en même temps de soleil, de solaire, d'invincibilité, de football, des choses dont je me sens très proche, c'est-à-dire jouer au football sur la plage, avoir le sentiment que même si on n'a rien, eh ben on a ce soleil, on a l'amitié, on a des paysages en commun, je pense aussi Camus et moi. Donc oui, c'est un homme qui m'est très cher comme écrivain et comme être humain.
Vous lisez un extrait de son discours ? C'est parti.
J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu dans les circonstances les plus contraires tout au long de ma vie. L'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que, dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise, aussi simplement que je le pourrai, quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis, au niveau de tous. L'art n'est pas, à mes yeux, une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel.
Vous savez, un romancier est toujours très courageux en ce qui concerne les opinions qu'il exprime dans ses romans. Quand vous me posez la question et je ne suis plus un romancier, alors je perds tout d'un coup cette liberté que j'ai comme romancier. C'est-à-dire, il est sûr que à mes personnages, l'histoire se manifeste très souvent comme une énorme plaisanterie. Ou bien que mes personnages arrivent à un certain moment qui est très révélateur, quand l'histoire, qu'ils ont pris bien sûr, comme tout le monde prend l'histoire au sérieux, ne soyons pas insincères, l'histoire est une des rares choses que l'homme prend, je dirais presque automatiquement au sérieux. Ça exige une très grande performance intellectuelle de ne pas prendre l'histoire, de ne pas la prendre au sérieux. Tout d'un coup, se poser la question, est-ce que tout cela n'est pas tellement bête, ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faut pas se libérer intérieurement de ce poids de l'histoire? Est-ce que c'est l'histoire qui voulait toujours être l'incarnation de la raison? Est-ce que c'est l'incarnation plutôt de la pure irrationalité, de la pure bêtise? Je dis, dans certains moments, dans certains lieux où est placé le personnage, vous voyez le monde tout d'un coup dans ses couleurs.
1984, la voix du romancier Milan Kundera. Il faut être super fort, très très fort pour ne pas prendre l'histoire au sérieux, dit-il. C'est pour aller vers votre quatrième choix, Leïla Slimani. Vous avez choisi l'ignorance de Milan Kundera, mais quand même juste un petit... Peut-être un petit commentaire de cet archive qui s'enchaînait quand même pas trop mal avec la lecture du discours de 57 d'Albert Camus. Petite oui, filiation.
Cette idée de ne pas prendre au sérieux, de ne pas se prendre au sérieux et de ne pas prendre au sérieux l'histoire qu'on nous raconte ou les choses qu'on voit. Je crois que c'est la définition même du roman. En tout cas, celle que donne notamment Kundera, où il dit que le roman, il est basé d'abord sur l'ironie, c'est-à-dire sur le fait que les choses ne sont jamais ce qu'on pense qu'elles sont, que les gens ne sont jamais ce qu'ils croient être. Et qu'il y a toujours une sorte de décalage un peu ironique. Et le romancier, il est là pour débusquer ça. Il peut passer, il passe en coulisses et derrière les apparences, derrière toutes, justement, ces cases dans lesquelles on s'enferme, ces identités qu'on porte en bandoulière, ces certitudes, voilà, dont on est fier d'être ceci ou d'être cela, bien d'un coup, il vient et puis
il les démasque
et puis il ne vous prend pas au sérieux quand vous venez lui raconter tout ça. Donc c'est ce qui fait le rapport au personnage, ce qui le rend bouleversant parfois, c'est que le personnage, on le prend, je dis, tu sais, moi je te vois, moi je sais très bien que tu n'es pas comme ça. Donc nous, on peut passer du temps un peu avec lui en coulisses et bien sûr, on ne le prend pas au sérieux. En même temps, ce qu'il dit aussi, il dit, quand j'écris mes romans, je peux donner mes opinions ou donner un regard et j'ai pas peur. Je me sens très à l'aise de le faire dans mes romans.
Quand je dois vous répondre en tant qu'homme.
Pourquoi il dit ça aussi? Parce que, en revanche, ce qu'on prend au sérieux, c'est la littérature elle-même. Ce qu'on prend au sérieux, c'est le langage et on croit dans cette arme-là et on croit dans cet outil-là pour pouvoir dire ce que l'on pense. Après, quand on se retrouve sur un plateau, dans un studio, c'est pas la même chose. On est beaucoup plus maladroit et notre parole est beaucoup plus indigente. Et voilà, et c'est sans doute pour ça qu'on écrit des livres, parce que d'un coup, on veut pouvoir dire vraiment ce qu'on pense et le dire de manière un peu
plus solide. Ouais.
Voilà.
Il y a un roman de Milan Kundera qui apparaît dans J'en porterai le feu. Il y a beaucoup de livres qui circulent, on l'a dit tout à l'heure, dans ce roman-là. Est-ce qu'il a un statut particulier dans la relation qu'entretient Mia à son père?
Alors d'abord, Kundera, il est dans tous mes livres et c'est même une sorte de superstition. Je ne peux pas publier un livre dans lequel il n'y a pas à un moment, voilà, quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'il me protège. Quand j'ai publié mon premier roman, il m'a envoyé un très très beau cadeau qui est au-dessus de mon bureau et je sais pas, il est vraiment très important pour moi. Et oui, Kundera occupe une place particulière parce que Kundera, c'est aussi un immigré, c'est aussi quelqu'un qui vit à une époque dans un pays où il n'est pas libre, où il n'a pas de liberté d'expression, de liberté de mouvement, qui va devoir quitter son pays et préférer sa liberté. Kundera disait, j'ai préféré ma liberté à mes racines. Or, c'est exactement ce que le père essaye d'enseigner à sa fille en lui disant, emporte le feu, ne regarde pas derrière toi ta maison qui brûle et puis va, fais ta vie, préfère ta liberté. Donc, il est une sorte de figure tutélaire, une sorte de figure anti-nostalgique, parce que c'est quelqu'un qui croit que la nostalgie, enfin, qui considère la nostalgie comme un fantasme lyrique, une manière voilà, de se repaître un peu, de scénarios qu'on se raconte sur le passé, sur le pays qu'on a quitté. Donc oui, c'est une figure pour moi d'émancipation Kundera, et justement de fais attention de ne pas prendre trop au sérieux tes souvenirs et tes fantasmes. Voilà, avance et sois lucide. Voilà.
Vous nous lisez un extrait de L'ignorance de Milan Kundera.
Dès les premières semaines de l'émigration, Erina faisait des rêves étranges. Elle est dans un avion qui change de direction et atterrit sur un aéroport inconnu. Des hommes en uniforme, armés, l'attendent au pied de la passerelle. Une sueur froide sur le front, elle reconnaît la police tchèque. Une autre fois, elle se balade dans une petite ville française quand elle voit un curieux groupe de femmes qui, chacune une chope de bière à la main, courent vers elle, l'apostrophe en tchèque, rient avec une cordialité perfide et épouvantée. Irina se rend compte qu'elle est à Prague, elle crie, elle se réveille. Martin, son mari, faisait les mêmes rêves. Tous les matins, il se racontait l'horreur de leur retour au pays natal. Puis au cours d'une conversation avec une amie polonaise, elle aussi émigrée, Irina comprit que tous les émigrés faisaient ses rêves, tous sans exception. Elle fut d'abord émue de cette fraternité nocturne de gens qui ne se connaissaient pas, plus tard un peu agacée. Comment l'expérience si intime d'un rêve peut-elle être vécue collectivement ? Qu'est donc son âme unique ? Mais à quoi bon des questions sans réponse ? Une chose était sûre, des milliers d'émigrés, pendant la même nuit, en d'innombrables variantes, rêvaient tous le même rêve, le rêve d'émigration, l'un des phénomènes les plus étranges de la seconde moitié du XXe siècle. Ces rêves cauchemars lui apparaissaient d'autant plus mystérieux qu'elle souffrait en même temps d'une indomptable nostalgie et faisait une autre expérience tout à fait contraire. Des paysages de son pays venaient, le jour se montrait à elle. Non, ce n'était pas une rêverie longue et consciente, voulue, c'était tout autre chose. Des apparitions de paysages s'allumaient dans sa tête, inopinément, brusquement, rapidement, pour aussitôt s'éteindre.
Peut-être qu'on ne va pas avoir le temps pour le cinquième choix, mais vous voulez juste dire de quoi il s'agit ?
Oui, il s'agit d'une nouvelle de Tolstoï. En fait, je voulais lire une nouvelle de Tolstoï parce que souvent les gens sont un peu effrayés par Tolstoï, par ses énormes romans. Et donc c'était parce que j'ai envie de partager cet auteur qui est très 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 important pour moi, que j'adore. Alors pour le coup, contrairement à Camus, dont j'aime pas forcément l'homme, mais j'aime beaucoup l'auteur. Et dire aux gens que ses nouvelles sont absolument magnifiques. Donc Maître et serviteur, Le Diable, Serge, ou encore bien sûr La mort d'Ivan Illich. Et là, c'était une nouvelle qui s'appelle Maître et serviteur, sur l'histoire d'un maître très autoritaire et de son serviteur un peu soumis, mais la relation va se métamorphoser. Donc voilà, j'invite les gens.
Vous êtes vraiment très forte pour donner envie de lire.
Voilà. J'espère qu'ils vont aimer.
Merci infiniment d'avoir regardé votre bibliothèque. Merci pour le book club. A nice gift certificate to Whole Foods. Come on. Au son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la réalisation de l'épisode, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand. Pour retrouver tous les textes évoqués par Leïla Slimani, les éditions, les traductions, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. Vous pouvez aussi trouver toute la série de nos portraits de bibliothèque. Easy Rider, 70s, hippie, spring pop. Chill vibes, feel free, stand up, hold the line, play me, feel free, hey come on, play me, rich popular girl. Mode, jazz in the background, chilling after work, at the school club, ready for spring afternoon.
play me.